Oyez, oyez, auditeurs de Radio Coeur Chartreuse.
Une nouvelle émission mensuelle arrive sur nos ondes.
Découvrez l'émission de votre parc naturel régional de Chartreuse.
Mais également les richesses de votre territoire au fil des émissions qui lui sont dédiées tous les mardis à 12h et les samedis à 18h.
Et ça s'appelle le parc au naturel.
À bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission mensuelle du Parc au Naturel, l'émission du Parc Naturel Régional de Chartreuse qui passe tous les mardis à midi et tous les samedis à 18h. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est la transition énergétique en compagnie de Sophie Roy, chargée de mission au Parc Naturel Régional de Chartreuse. Bonjour Sophie.
Bonjour.
C'est le vice-président à la transition énergétique, M. Sylvain Laval, qui nous explique dans un premier temps les tenants et aboutissants de cette mission particulière au sein du PNRC. Alors, pour nous parler de ce nouveau sujet ce mois-ci sur la transition énergétique, nous recevons aujourd'hui Sylvain Laval, vice-président en charge des mobilités et de la transition énergétique au Parc naturel régional de Chartreuse. Bonjour, Monsieur Laval.
Bonjour.
Et Sophie Roy, chargée de mission transition énergétique et mobilité. La mobilité étant un sujet dont nous parlerons dans une autre émission. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors Monsieur Laval, le rôle du parc dans un contexte de transition énergétique dont on entend de plus en plus parler sur un territoire TEPOS comme le nôtre, quel est-il et qu'est-ce qu'un territoire TEPOS ?
Alors, un territoire TEPOS, c'est un territoire à énergie positive. Donc, c'est une démarche dans laquelle le parc est engagé en lien avec les intercommunalités du territoire que sont le Pays Waronnais et la communauté de communes Cœur de Chartreuse pour développer, évidemment, une politique qui vise à restreindre les consommations énergétiques de manière autonome et vertueuse à l'horizon 2050. Donc, le parc est dans cette démarche. Il accompagne les différents acteurs impliqués, notamment les collectivités, et il est là pour apporter du conseil, des analyses techniques et parfois des financements à des études, mais le parc ne finance pas en direct des travaux.
Très bien. Alors, on va voir justement comment ça se concrétise sur le territoire, cette notion de sobriété énergétique et de développement d'énergie renouvelable. Quelles sont les actions concrètes que le parc met en place ? Je crois qu'il y a de la rénovation de bâtiments publics sur les communes, de l'aide en tout cas.
Oui, absolument. Alors d'abord, ce qui est important, c'est qu'on accompagne, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le changement de comportement et qu'on oriente ces directions. Donc, pour ce faire, nous allons travailler dans le domaine de la rénovation, notamment du patrimoine bâti, qui est un enjeu très important. Donc là, on accompagne les communes pour leur donner des conseils, pour les orienter vers les bons acteurs du sujet, en lien évidemment avec tous ceux qui y contribuent. Et ça, c'est un élément qui est très important et qui est un des gros enjeux sur la transition énergétique.
Alors, petit stop là-dessus. Est-ce que Sophie peut nous donner quelques exemples d'accompagnement ou d'aide à la rénovation de bâtiments publics sur des communes de Chartreuse ?
Oui, alors l'année dernière, on a accompagné plutôt des audits énergétiques. Donc, oui. C'est intéressant parce que c'est ce qui permet de passer à l'acte ensuite et de mettre en place des travaux performants. On a accompagné la commune d'Entremont-Vieux, la commune de Bernin.
Mais sur quel type de bâtiment ?
Alors, sur tout type de bâtiment public, on a des écoles, des salles polyvalentes, des bâtiments aussi qui accueillent du logement privé, mais qui sont propriétés de la commune. On a beaucoup d'écoles. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal, parce qu'il y a pas mal de rénovations d'écoles en ce moment. Mais voilà, des bâtiments de tout type. La seule particularité, c'est que c'est des bâtiments qui appartiennent à des communes.
Très bien. Je vous laisse reprendre le bâton de parole, Monsieur Laval, excusez-nous.
Non, je vous en prie. Alors, il y a aussi une action importante sur la question de l'éclairage public, et notamment en ce qui concerne les zones comme le parc naturel régional de Chartreuse, qui est une zone naturelle incroyable et sur lequel nous avons besoin à la fois d'être plus sobres dans nos consommations énergétiques, mais aussi d'avoir un impact beaucoup plus faible, notamment sur la nature, sur l'environnement, sur la biodiversité. Donc là, nous avons un gros travail qui est fait avec les communes du parc, pour soit totalement couper l'éclairage à partir d'une certaine heure en nuit, ou alors à réduire son intensité. Et ça passe aussi par des travaux en lien avec les communes de renouvellement du parc pour avoir des équipements qui soient plus performants, moins énergivores et qui aient un impact plus faible pour la nature. Nous avons aussi des démarches de sensibilisation à ces sujets, avec des manifestations grand public, ou le mois de la nuit auquel l'essentiel du parc aussi participe.
Alors, est-ce que vous avez idée, excusez-moi, Monsieur Laval, du nombre de communes qui sont déjà impliquées dans cette, Monsieur Laval ou
oui,
Sophie d'ailleurs,
oui,
impliquées
absolument.
Dans ce
vous
genre
avez,
de démarche?
Sophie pourra compléter, mais vous avez plus de la moitié des communes du parc qui éteignent totalement leur lumière la nuit, notamment celles qui sont des petites communes en zone de montagne. Vous avez des communes en marge du parc qui ont des parties encore urbaines, donc qui ont là pas forcément la capacité de tout couper, mais qui commencent à varier l'intensité et puis à couper dans certains secteurs. Donc ce travail, il se poursuit, il est engagé et il y a aujourd'hui quasiment l'essentiel des communes du parc qui sont mobilisées chacune à leurs échelles, en fonction évidemment de leurs besoins sur cette question.
Oui, dont Saint-Laurent-du-Pont, puisqu'en tant que Laurentinoise, je l'ai constaté, c'est très bien. Très bien. Sur une dimension plus privative, je crois savoir en tout cas que vous commencez à travailler auprès des boutiques, entreprises et bureaux sur les éclairages de vitrines.
Alors ça, comme je le disais, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore assez exploité, parce qu'on sait qu'il y a un gros levier, il faut qu'on y travaille sur le logement privé, le logement des entreprises, des artisans, des commerçants. Il y a une réglementation qui existe et qui n'est pas toujours respectée parce que pas toujours bien connue. Et donc là, ça va être un de nos prochains chantiers, travailler avec tous ces acteurs privés qui doivent aussi réduire leur éclairage et qu'on doit accompagner.
Très bien. Et on glisse doucement, mais sûrement, vers les bâtiments privés que peuvent être les logements individuels. Donc vous pensez travailler là-dessus, sur la sensibilisation auprès des citoyens?
Absolument, c'est important puisque cette transition énergétique, elle doit se faire à toutes les échelles de tous les acteurs. Ça ne peut pas être que certains et pas d'autres, sinon elle n'est pas efficace. Et donc là, sur la question du logement privé, on a un travail en lien évidemment avec les artisans du territoire sur la rénovation. On a aussi besoin de sensibiliser le grand public, les privés. Donc on organise des moments de conseil pour que les gens aient les informations et se lancent dans ces démarches-là. Et puis on coordonne bien sûr aussi un certain nombre d'actions pour mettre en relation tout le monde et sensibiliser. Donc ça fait vraiment partie des missions prioritaires du parc, qui est d'apporter de l'information, de lancer des démarches, de pousser, de soutenir. Le parc, c'est un peu un grand coordinateur de politique publique. C'est pas quelqu'un qui va réaliser en direct forcément tout, mais qui va impulser, coordonner,
accompagner
des gens qui ne se seraient pas nécessairement parlé s'il n'y avait pas le parc. Et ça, c'est très important. Et bien sûr, accompagner aussi.
Très bien. Alors oui, ça se matérialise avec des matinées de conseil rénovation, je crois.
Ce
dont
vous
parliez pour les individuels. Sur les intercommunalités qui sont au nombre de 7, puisqu'on va jusqu'à Cœur de Savoie,
c'est ça,
hein, dans la vallée du côté de Montmélian. Côté énergie renouvelable, il y a également la mise en place de centrales villageoises au niveau de ces mêmes intercommunalités. On est un petit peu à la queue leu-leu, nous, sur l'interco Cœur de Chartreuse, mais dans quelle mesure est-ce que le parc accompagne et dynamise cette démarche?
Alors, c'est une démarche importante parce qu'évidemment, ce sont des acteurs locaux du territoire qui vont permettre de produire ces énergies propres. Donc, le parc, il est présent dans ces structures qui ont souvent d'ailleurs des initiatives citoyennes, qui produisent localement de l'énergie et dans lesquelles le parc prend également des parts et il investit souvent 1 000 euros dans ces différentes sociétés, pour contribuer évidemment à leur soutien, à leur développement et à leur promotion sur le territoire. Et on accompagne aussi des projets très spécifiques comme par exemple une micro-centrale hydraulique dans le territoire du Grésivaudan.
Alors on peut dire que le parc est actionnaire de ces centrales villageoises.
Oui, tout à fait. Il y a 6 structures actuellement dans lesquelles le parc possède des parts.
Et bientôt 7, on espère, avec Cœur de Chartreuse.
On espère, on va les aider en tout cas, on va essayer de les aider.
D'accord. Et pour finir, la liste serait longue, mais en tout cas pour l'essentiel, le parc accompagne également les études de faisabilité sur des démarches collectives. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous mettez en place ou de ce que vous faites?
Oui, là encore, nous sommes dans le rôle de pilotage d'études, de structuration que le parc fait. Et on peut prendre l'exemple du domaine agricole, qui est un bon exemple, où il y a eu une réflexion engagée sur l'éventualité d'une méthanisation collective sur le territoire, hein, pour pouvoir produire de l'énergie. Bon, il se trouve que le travail qui a été réalisé a démontré que ce n'était pas pertinent, mais une démarche a été engagée, la réflexion a été posée avec l'ensemble des acteurs, et cette démarche, elle a été positive, parce que tout le monde s'est posé la question de voir comment on pouvait avancer, et après, il faut évidemment choisir les éléments les plus pertinents. Il y a d'autres choses à faire dans le domaine agricole, et il y a évidemment... beaucoup de choses à faire sur la production d'énergie des agriculteurs, sur la sobriété de leurs exploitations, la réduction de leurs coûts. C'est à la fois bon pour la planète, mais c'est aussi bon aussi pour soutenir les agriculteurs sur leur propre budget. Hein, il y a des possibilités fortes sur le photovoltaïque, sur les secteurs agricoles, et puis il y a aussi évidemment des réseaux qui sont intéressants de rassembler pour produire de manière commune, notamment avec le bois qui est en Chartreuse et quand même quelque chose de très fort et dont nous sommes aussi très fiers.
Oui, avec une AOC bois en plus, assez novatrice, il faut porter l'oriflamme assez haut.
Tout à fait.
Très bien, on a à peu près fait le tour, je crois. Du coup, Sophie, sur le territoire, dans nos démarches concrètes sur le territoire, on va aller à la rencontre de qui ?
Alors, on va aller à la rencontre d'une centrale villageoise, justement,
oui,
dont on
super.
Parlait. On va aller à la rencontre d'un collectif citoyen qui travaille sur une commune du parc. Et donc, on essaie aussi de travailler beaucoup avec ces collectifs qui font des choses super à l'échelle locale dans leur commune, qui accompagnent le changement de comportement, qui proposent des choses aux habitants des communes. Donc là, je pense qu'on va aller au SAPE, un collectif qui s'appelle SAPE en transition. Et ensuite, on va aller rencontrer une commune qui pratique ce qu'on appelle la gestion durable de l'éclairage public, avec extinction nocturne, mais pas que, parce qu'il y a aussi des choix technologiques intéressants qui peuvent être faits de ce point de vue-là. Voilà.
Eh ben super, tout un programme. Merci beaucoup à tous deux pour cette première présentation. Merci Monsieur Laval.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Radio Couleur Chartreuse, au cœur du massif.
Nous sommes ensuite allés à la rencontre des diverses initiatives qui existent sur le territoire de la Chartreuse et nous enchaînons donc avec Monsieur Luc Jourdan, président de Grésy 21 et de la centrale villageoise Grésy 21, qui nous présente les objectifs de cette entreprise. Alors, pour parler de cette transition énergétique sur un plan très concret, nous recevons aujourd'hui Luc Jourdan, qui est président de la société centrale villageoise Grésy 21. Bonjour, Monsieur Jourdan.
Bonjour et bonjour à tous. Bonjour à tous.
Alors, Monsieur Jourdan, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une centrale villageoise ?
Une centrale villageoise est un mouvement citoyen donc qui fait partie d'une confédération qui s'appelle les centrales villageoises, qui comprend environ 60 organisations comme la nôtre. Et Grésy 21, plus spécifiquement, donc ce sont les centrales villageoises du Grésy-Vaudan, c'est-à-dire entre Grenoble et Chambéry, en termes de localisation. Et donc Grésy 21 est un collectif qui va rassembler en son sein des bénévoles qui agissent pour diminuer l'impact énergétique du Grésy-Vaudan en agissant sur la mobilisation des citoyens, des collectivités, des entreprises, en facilitant les économies d'énergie et en produisant des énergies renouvelables.
Alors, par exemple, qu'est-ce que vous recouvrez comme commune côté Grésy-Vaudan ?
Eh bien, donc, ça va aller de Chapareillan à Champs-Roust, d'un côté, et de Montbonneau à Pontcharrat, de l'autre. Hein. Donc, tout le Grésy-Vaudan, c'est-à-dire les 43 communes du Grésy-Vaudan. Nous avons des bénévoles dans 35 communes environ, qui sont regroupés en groupes de 4 ou 5 communes, ce que nous appelons les groupes communaux. Et ces groupes communaux il y a entre 5 et 15 personnes. Ils vont agir localement, donc dans leur commune, soit donc pour mobiliser, comme je disais, pour faciliter les économies ou pour produire des énergies renouvelables. Et dans ce domaine-là, nous avons commencé en 2016.
Oui.
Donc ces bénévoles... On commençait à se regrouper fin 2015 et on commençait en 2016 en créant la société Grésy 21, donc les centrales villageoises du Grésy-Vaudan, pour produire de l'électricité verte à partir de panneaux solaires ou de panneaux photovoltaïques.
Alors, on va voir ça un petit peu plus loin, effectivement. Pour nos auditeurs, on a d'autres centrales villageoises, qui existent avec Cœur de Savoie, la métropole de Chambéry et la métropole de Grenoble pour les plus proches, et une qui visiblement est en gestation sur la 4C, la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Jourdan, la genèse du projet ? Comment il est né, ce projet ?
Alors, le projet est né donc fin 2015. Il y a des bénévoles, enfin des personnes qui étaient essentiellement sur plateau des Petites Roches, Crolles, Limbin, donc qui ont lancé des réunions publiques, deux réunions publiques en octobre-novembre 2015. Et à ces réunions publiques, il y avait déjà 170 personnes qui sont venues en deux fois pour parler justement de la transition énergétique du territoire, du Grésivaudan. Et donc, à partir de là, quand on a dit, tiens, on va commencer à travailler, il y avait déjà, il est resté 50 à 60 personnes qui étaient possibles. Et ces personnes ont travaillé sur la création d'une société, donc une société centrale villageoise qui a été créée donc en mai 2016. Donc, et qui œuvre depuis.
Très bien. Alors, vous avez commencé à présenter tout à l'heure ce que ça pouvait donner sur le plan pratique avec notamment les panneaux photovoltaïques. Je vais y arriver. Je vous laisse développer.
Oui, donc, dès le départ, en fait, nous avons lancé donc, une opération de recherche de toiture. Au début, pendant 3 ou 4 ans, on a pu équiper des toitures de maisons, de particuliers, des toitures de collectivités et puis petit à petit aussi des entreprises. Donc des toitures entre 50 mètres carrés et puis 180 mètres carrés pour les trois premières années.
D'accord.
Et là, avec ça, on a pu, en 3 ans, on a pu alimenter environ 200 foyers en consommation annuelle d'électricité de base, c'est-à-dire hors chauffage. Voilà, donc ça, c'était nos trois premières années. Et à partir de là, et en fait, ensuite, on a augmenté la puissance des installations, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à faire des installations qui font 100 kilowatts, c'est-à-dire à peu près 650 mètres carrés de panneaux. Et on va passer bientôt sur des installations qui vont faire jusqu'à 3000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, donc pour augmenter nettement la puissance et donc l'énergie produite tous les ans.
3000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ?
Ah oui, c'est tout à fait possible. Par exemple, sur des ombrières de parking, où il y a des grandes entreprises qui sont dans la vallée du Grésivaudan et qui ont des parkings qui sont assez immenses. On peut tout à fait imaginer. On a eu un pré-projet avec une entreprise de la vallée où il y avait 2500 mètres carrés de panneaux.
D'accord.
Ça correspondait peut-être à un tiers de leur parking. Hein, donc,
mais du coup, ils se financent comment, ces panneaux ?
Alors, notre modèle économique, donc, c'est de produire de l'électricité, de la revendre donc à EDF grâce au tarif d'achat réglementé par l'État.
Oui.
Et donc, c'est un tarif d'achat qui est fixé pour 20 ans. Et donc, Grésy 21 se pose en tiers investisseur, c'est-à-dire Grésy 21 est propriétaire de l'installation, loue la toiture ou l'emplacement pour, si je puis dire, pour le parking, donc réalise l'installation et l'exploite pendant 20 ans. Ça, c'est notre modèle économique, sachant que tous les projets que nous réalisons sont des projets qui sont rentables, mais bien sûr, ils sont rentables dans les conditions actuelles de l'entreprise, c'est-à-dire que nous n'avons aucun salarié, donc
oui,
nous n'avons
aucun
quasiment aucun frais de fonctionnement.
Bien sûr, effectivement.
Qui nous permet de faire des projets là où des sociétés commerciales ne pourraient pas le faire.
Oui, c'est en tout cas comme modèle économique, c'est intéressant. Ça prouve qu'il y a d'autres voies que celles qu'on connaît aujourd'hui. Comment est-ce que vous choisissez les bâtiments par rapport à ces panneaux solaires ? Alors, j'entends bien que pour les grandes surfaces de panneaux solaires dont vous venez de parler, 2500, 3000 m², vous pouvez regarder du côté des parkings d'entreprises. Mais pour les autres panneaux solaires, qu'est-ce qui détermine que tel ou tel bâtiment peut recevoir des panneaux solaires ? L'exposition, peut-être ?
Alors bien sûr, hein, il y a l'exposition, hein, donc l'exposition, c'est plutôt une exposition sud ou sud-est ou sud-ouest, bien sûr. Ensuite, il va y avoir le lieu. Faut prendre donc la question des ombrages, hein, des ombrages lointains comme les montagnes ou des ombrages proches comme les arbres. Il y a un certain nombre de paramètres. Il y a aussi la structure. Bien malheureusement, beaucoup de structures de toitures d'entreprise donc sont trop légères. Alors oui. Bien sûr, elles sont sécurisées hein, par rapport, y compris à la neige. Voilà, je veux pas, y a pas de risque là-dessus. Mais en revanche, elles sont trop légères pour pouvoir ajouter le poids de panneaux photovoltaïques. Et bien malheureusement, on ne peut pas équiper beaucoup d'entreprises et beaucoup de grands magasins parce que leur toiture est trop légère.
Ils n'ont pas été
conçus. Le critère de la structure de la charpente est vraiment un critère fondamental. Quoi.
Oui, eh ben oui, ça doit faire un certain poids quand même.
Alors, quelquefois, comme il y a des entreprises, hein, comme je vais citer Biocop à Crolles, qui, lors de la construction de leur bâtiment, donc on fait attention donc, à pouvoir avoir une structure de charpente plus costaud, donc de telle façon à pouvoir accueillir des panneaux. Et donc, on voit que s'il y a vraiment une volonté d'une entreprise, alors bien sûr sur un nouveau bâtiment ou en cas de rénovation importante de la toiture, on peut en fait mettre des panneaux même sur une structure métallique parce que ça a été effectivement pris en compte dès le départ. Quoi.
Très bien.
Et ça, c'est la bonne nouvelle parce qu'on travaille de plus en plus soit avec des bailleurs sociaux en amont de la construction, soit on commence à travailler avec des architectes, hein, parce qu'on a des bénévoles qui ont fait des webinaires auprès d'architectes pour leur parler justement de tout ce qui concernait la transition énergétique. De magasins, d'entreprises qui se disent, faisons un effort et comme ça on pourra accueillir des panneaux sur nos toits ou sur nos parkings.
Bien, écoutez, c'est super intéressant. Alors, je ne sais plus si vous l'avez souligné en tout début de présentation de ce qu'est une centrale villageoise, mais en tout cas, les villageois qui sont impliqués dedans sont actionnaires. Et le lien avec le parc naturel régional, c'est qu'il a aussi des parts dans ces centrales villageoises.
Voilà. Donc, en fait, l'entité, est une société, par action simplifiée, donc une SAS. Et donc, contrairement à tous les modèles plus capitalistiques, je dirais, donc cette société a un modèle de gouvernance coopératif, donc une personne égale une voix. Et nous avons des collèges, un collège de citoyens, un collège de collectivité. Donc, et là, on va retrouver le parc naturel de la Chartreuse, et puis, qui est actionnaire, et puis un collège d'entreprises. Qui est aussi dans lequel on a donc des entreprises qui sont aussi actionnaires de la société, mais les citoyens ont en fait la très grande majorité en fait des voix puisque c'est un mouvement citoyen. Mais c'est très important pour nous de travailler en synergie avec tous les acteurs qui œuvrent pour le climat finalement.
Oui.
Et donc on travaille avec effectivement le parc de Chartreuse comme avec la communauté de communes du Brézivaudan, des communes. D'autres associations, etc. L'important, c'est d'avancer fort et vite.
Très bien. Dernière question, si vous pouvez y répondre rapidement, parce qu'on est vraiment serré par le temps, Monsieur Jourdan. Quelles sont les autres activités que le photovoltaïque qui sont développées dans le sens de cette transition énergétique?
Alors, j'ai parlé donc de la société citoyenne Grésivater, mais Grésivater, depuis l'année dernière, c'est aussi une association. Donc, en plus de l'entité société, il y a une entité Grésivater Association qui, là, elle travaille plus sur la mobilisation et sur les économies d'énergie. Donc, pour les économies d'énergie, les bénévoles, alors depuis plusieurs années, ça n'a pas commencé l'année dernière, ont travaillé. Donc, il y a des fiches conseils qui existent, qui sont disponibles sur notre site. Notre site, c'est www.grésivater.fr.
Super.
Vous avez aussi des balades thermographiques. Là, il s'agit d'apprendre à utiliser une caméra thermique pour évaluer les déperditions de chaleur dans son habitat, par exemple. C'est assez intéressant de voir, avant de commencer à dépenser pour rénover son habitat, d'un point de vue thermique, c'est important de savoir où passe l'énergie. Donc ça, on fait ça. Il y a des réunions Tupperwats, il y a un groupement d'achat de granulés bois. Il y a beaucoup d'activités comme ça qui se développent, qui sont animées par des bénévoles qui ont envie de faire ceci ou cela. Et en fait, le collectif citoyen, puisque finalement, Grésivater, c'est un collectif citoyen avec deux entités juridiques dont j'ai parlé, en fait, est là pour les aider, pour aider les bénévoles à avancer, pour organiser cela et faire que donc tout cela dure, cela se développe, puisque l'objectif, Si aujourd'hui on a une capacité de production de 400 foyers que l'on peut alimenter en électricité, l'objectif pour 2030, c'est d'en alimenter au moins 4000.
Ah oui, on joue pas dans les mêmes cours là.
De faire x10, bah oui, parce que sinon,
oui, ça reste à petite échelle.
Voilà. Crazy 21, alors moi j'ai l'habitude de dire c'est un peu une start-up, là on en est au début et on est en train vraiment d'accélérer, puisque grâce à la levée de fonds que l'on fait en ce moment, donc on recherche 80 000 euros qui seraient apportés par des nouveaux actionnaires, et on recherche beaucoup de nouveaux actionnaires parce que en fait l'argent c'est important, mais les bénévoles, les personnes, ça l'est tout autant. Et bien en fait on va pouvoir l'année prochaine par exemple passer de 400 foyers alimentés à 600. Donc, augmenter notre production de 50%. Donc, on voit qu'il y a une accélération, en fait. Et ça, c'est que pour les panneaux photovoltaïques, mais on a aussi, comme nous en parlera mon collègue, des projets en centrale hydraulique, des projets en centrale bois qui pourraient être réalisés. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont à développer et que vous pourrez retrouver sur notre site Internet.
Très bien, on a fait un joli tour d'horizon sur Grésy 21. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Jourdan, de cet éclairage. Je vous souhaite une belle continuation. Et puis, vous êtes le bienvenu pour revenir parler de cette initiative très intéressante quand vous voulez.
Très bien, à bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Retrouvez toutes nos infos sur www.radiocouleurchartreuse.org. RCC. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own two hands. My own two hands. I can make a peace on earth with my own two hands, and I can clean up the earth, Lord, with my own two hands, and I can reach out to you, oh, with my own two hands, with my own two hands. A brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. We'll be right back.
Bienvenue sur Radio Couleur Chartreuse.
C'est ensuite Monsieur Martin Huss, bénévole à Grésy 21, en charge d'un projet de centrale micro-hydraulique que nous avons interrogé. Mais malheureusement, le format de l'émission ne nous a pas permis de glisser son interview. Vous la retrouverez donc dans un prochain « C'est près de chez vous ». La transition énergétique et l'économie d'énergie passent également par l'éclairage public. Nous nous arrêtons donc quelques minutes sur les actions concrètes menées par la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse à ce sujet, en compagnie de Éric Daviau. Alors, bonjour à tous. Donc, nous avons changé d'endroit. Nous sommes actuellement devant la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse, au pied d'un lampadaire. On comprendra pourquoi un petit peu plus loin dans l'interview. Nous sommes en compagnie de Éric Daviau, élu en charge de l'éclairage public, l'énergie, les déchets et la mobilité. Bonjour Monsieur Daviau.
Bonjour.
Et en compagnie de Sophie Roy, chargée de mission au parc naturel régional de Chartreuse. Alors le libellé exact, Sophie, je ne l'ai plus en tête.
Chargée de mission transition énergétique.
Moi je l'avais là. Autant pour moi. Monsieur Daviau, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots la typologie de votre commune? Combien d'habitants, le relief, etc. pour nos auditeurs?
Ok. Saint-Pierre-de-Chartreuse est au cœur du parc naturel de Chartreuse, donc est en moyenne montagne. Donc on est à peu près à 900 mètres d'altitude et on a une commune qui est très étalée avec 52 hameaux et un peu plus de 1000 habitants. Donc l'éclairage public, en fin de compte, est vraiment un sujet complexe sur la commune. Je vous dirai un peu plus tard pourquoi.
D'accord. Justement, je vous pose la question. Quelles sont les actions que vous avez mises en place concernant l'éclairage public? Et on en revient du coup au pied du lampadaire auquel nous nous situons actuellement, qui a peut-être quelque chose à dire, ce lampadaire.
Exactement. Ce lampadaire a été rénové dans le cadre d'un projet de rénovation pluriannuel d'éclairage. Et notamment, en 2018, on a repris... Et je dirais la problématique de l'éclairage public qui était en mauvais état, qui était non sécuritaire et qui n'était plus aux normes environnementales. Il fallait éliminer un certain nombre de types d'éclairage qui n'étaient plus acceptés dans l'environnement. Et donc on a profité pour remettre tout à plat l'éclairage public, c'était en 2017, pour commencer les tranches de rénovation en 2018. Donc ces tranches, on est rendu à la troisième et on va faire la quatrième tranche en 2022.
Alors, en quoi consistent ces tranches de travaux?
Alors, ces tranches, c'est la restructuration de l'éclairage. Donc je ne dis pas le renouvellement des luminaires, ça en fait partie, mais il y a aussi la suppression de luminaires et le rajout de luminaires. Globalement, sur la commune, on avait 190 luminaires avant 2018. À ce jour, on en a 160, c'est-à-dire qu'on a réduit on a réduit de 30 points lumineux la commune, qu'on a considéré qu'ils n'étaient pas utiles, et on les a rénovés. Par contre, on en a rajouté un certain nombre qui manquaient, par exemple sur le parking de l'école, dans certains chemins au centre du village, où il y avait des points noirs et il fallait vraiment rajouter de l'éclairage.
Alors, vous avez également mis en place l'extinction nocturne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste?
Oui. Alors, l'extinction nocturne, ça consiste au moment où les personnes dorment, d'éteindre l'éclairage parce qu'il n'a plus trop d'utilité.
C'est vrai. Donc, c'est de la dépense énergétique.
Voilà, ça fait des économies d'énergie qui sont importantes. Et donc, aujourd'hui, on a convenu au niveau de la commune, après une expérimentation d'un an, c'est de faire une extinction nocturne de minuit à 5h du matin et de laisser les hameaux, je vous ai parlé de 52 hameaux, les hameaux libres de choix de leurs éclairages, de leurs extinctions, à condition que ce soit plus d'extinction que minuit 5h.
D'accord.
Et donc, on a notamment deux hameaux qui se sont manifestés. On a des extinctions sur deux hameaux 22h30, 6h, par exemple.
Super.
D'accord. Sophie, vous habitez... Non, vous habitez pas Saint-Pierre-de-Chartreuse.
J'habite pas Saint-Pierre-de-Chartreuse, non.
Elle est grenobloise, Sophie, donc je peux pas lui demander, son avis en tant que citoyenne.
Non, mais par contre, Eric, vous pouvez peut-être nous dire comment la population réagit de manière générale.
Ah oui, c'est une bonne question, oui.
Oui. Alors, la population a plutôt bien réagi. Je veux dire, on n'a eu aucun retour négatif. Je pense qu'on est arrivé à une période où l'extinction nocturne était déjà pas mal en place dans des villes, d'autres villes, dont on n'était pas les pionniers. Et ça a été plutôt très bien accueilli. Quelques interrogations au départ, quelques surprises de se retrouver quelquefois à minuit en centre du village où
dans
on voit rien,
total.
Dans le noir total. mais vraiment, voire même certains ne s'en sont pas rendus compte. Il y en a qui me sont venus 2-3 ans après me dire « Ah, on fait l'extinction nocturne ».
Alors qu'il y avait quand même une communication.
Alors qu'il y avait une communication, mais globalement, comme les hameaux qui reviennent nous voir, c'est plutôt pour faire encore plus d'extinction nocturne. Donc c'est vraiment apprécié de la population.
Ah bah ça c'est super. Et alors en termes d'économie d'énergie, est-ce que vous avez des chiffres déjà d'économie?
Bah déjà aujourd'hui, on n'a pas fini, mais le travail fait qu'on a économisé 50% de l'énergie. Par rapport à avant 2018. Et la facture ne réduit pas complètement parce que l'économie de l'énergie augmente pendant ce temps-là, mais on a réduit de 34% la facture d'énergie au passage. Donc on pense pouvoir, après la fin de la rénovation, arriver à 70% d'économie d'énergie.
Ah oui, c'est un chiffre parlant.
Le point lumineux moyen, la puissance d'un point lumineux moyen avant la rénovation était à 120 watts. Aujourd'hui, il est à 50 watts. Donc on voit, et en plus on a réduit le nombre de points, on a fait l'extinction nocturne, quand même une grosse économie d'énergie,
oui.
Et donc tout ça mis bout à bout fait qu'on fait des grosses économies.
Et est-ce que cette diminution de puissance, elle s'accompagne d'un changement dans l'ambiance lumineuse? C'est des questions qu'on a souvent. Est-ce que la lumière qui est aujourd'hui sur les points lumineux rénovés, elle est différente de celle qu'il y avait avant?
Alors, elle est différente, oui et non. En fin de compte, ce qu'on a fait, c'est que... Ce qui est important dans l'éclairage, c'est l'homogénéité d'éclairement. Et donc, on avait des différences fortes d'éclairement entre les luminaires. Il y avait du blanc, il y avait du ambré, il y avait des puissances différentes.
Kaléidoscope.
Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, c'est déjà, on a fait une lumière homogène. Et à partir du moment où la lumière est homogène, on peut baisser les puissances. Et en fin de compte, l'œil s'adapte et on ne se rend pas compte de ce que c'est... Quand il y a des différences, on peut se rendre compte d'un sous-éclairement. On a l'impression d'un sous-éclairement parce qu'on dit ce point lumineux est moins fort que celui-là, donc c'est sous-éclairé. Mais quand on est homogène, on ne se rend pas compte de sous-éclairement. Donc on a fait le choix de faire un éclairement qui était plutôt faible. Donc on est parti sur des luminaires qui sont plutôt de l'ordre de 40 watts en OLED, mais avant on faisait du SHP 50 watts pour ceux qui connaissent les technologies. Et derrière, c'est donc on a une lumière plutôt douce à Saint-Pierre quand on se promène dans le centre-ville. Si on peut dire que c'est une ville.
Le centre-village. C'est plus des villages.
et par contre, on a fait un choix de couleur ambré pour respecter l'environnement nocturne. Parce que ça, c'était important pour nous aussi
dans notre parc naturel régional. C'est vrai que ça peut avoir un impact sur les animaux, j'imagine. Ok. Et alors, on parlait tout à l'heure de la réaction plutôt positive des habitants. Alors, en dehors de ceux qui débarquaient de la Lune et qui s'étaient même pas aperçus, qui se sont même pas aperçus qu'il y avait une extinction des éclairages nocturnes, est-ce que ces habitants ont été impliqués dans la démarche?
Oui, donc on a fait, on essaye de travailler un peu comme ça au niveau de Saint-Pierre. C'est qu'on a fait, au moment du début de rénovation, il y a eu un groupe de travail, on a fait un appel à citoyens volontaires. Pour aller dans un groupe de travail pour justement travailler sur cette rénovation. Donc on a eu quelques citoyens qui sont encore dans le groupe de travail, puis qui travaillent sur la tranche 4, et donc, ou qui ont travaillé sur la conception de la tranche 4, et qui derrière sont impliqués dans les propositions faites au conseil municipal de rénovation.
Super. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cette mini-interview. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Sophie ou Monsieur Davio?
Peut-être juste un petit détail quand même important dans la démarche, hormis le fait d'impliquer les citoyens, c'est que la première chose qu'on a commencé à faire, c'est définir une politique d'éclairage public. C'est-à-dire qu'au niveau du conseil municipal, on s'est dit qu'est-ce que doit être l'éclairage public sur la commune. Et tout ce qu'on a fait a été fait en accord avec cette politique. Donc, une politique qui disait... un éclairage respectueux de l'environnement, un éclairage économe, un éclairage sécuritaire pour les citoyens, un éclairage qui éclairait les espaces publics importants, et puis les départementales qui traversent la route, mais pas forcément ailleurs. Et puis dans les hameaux, une concertation avec les hameaux pour savoir ce qu'on laissait et ce qu'on gardait dans l'éclairage. Donc ça a été cette politique qu'on a appliquée depuis le début, et je pense que c'est important au début pour les communes de commencer par se poser cette question. D'accord. Et cette question, on se l'est posée en disant, si on n'est pas d'éclairage public, où est-ce qu'on en mettrait ?
Oui, d'accord.
Parfait, et moi, je voulais juste rajouter que la démarche de Saint-Pierre est super ambitieuse et exemplaire, et que ça s'inscrit aussi dans un programme plus général du parc, que le parc essaie de favoriser, un éclairage raisonné pour des parcs étoilés. Donc c'est un programme de coopération avec d'autres parcs qui vise vraiment à aider les communes à se mettre en marche sur ce sujet-là. Et donc on est content d'avoir des communes un peu pilotes qui peuvent aussi donner des conseils aux autres communes.
Oui, monsieur Davio.
En complément, Sophie, on a obtenu aussi un label qui s'appelle Village Étoilé, donc, qui est délivré par l'ANPCEN, c'est l'Association nationale de protection des ciels et de l'environnement nocturne, qui délivre ce label au territoire ou aux villes-villages qui justement respectent l'environnement nocturne. Donc ce label, on l'a obtenu l'année dernière.
Très bien, parfait. Ben, écoutez, merci à tous les deux pour ces précisions. Merci Monsieur Davio.
Merci à vous.
Merci Sophie.
De rien.
Et à la prochaine.
Merci à vous. À la prochaine.
La prochaine interview. À bientôt.
Vous écoutez Radio Couleur Chartreuse. Surtout, ne changez rien. RCC.
Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent actuellement sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. Nous sommes dans l'émission Le Parc au Naturel, émission du Parc Naturel Régional de Chartreuse. Et nous traitons aujourd'hui du sujet de la transition énergétique. Et nous terminons justement ce tour de piste des actions menées sur le territoire avec le Collège du Grandson à Saint-Laurent-du-Pont et M. Christophe Jounot, conseiller d'éducation, afin de nous présenter le film documentaire réalisé avec les élèves sur le réchauffement climatique. Bonjour M. Jounot.
Bonjour.
Alors ce film, il est né comment ?
Alors ce film, il part d'une action d'un petit groupe d'élèves, un groupe de jeunes qui s'appelle le Club Nature au collège, qui regroupe des élèves de 6e à la 3e, qui sur le temps de midi 2, s'intéressent à cette question du développement et du réchauffement climatique. Voilà. Et en parallèle, on mène depuis plusieurs années des ateliers audiovisuels avec un réalisateur professionnel, Jean-Marc Faure. On fait des fictions, on a déjà fait un documentaire sur les valeurs de la République au moment des attentats. Et donc, on a regroupé ces deux ateliers et on a décidé de créer un documentaire avec les jeunes et de partir enquêter sur le réchauffement climatique, mais dans notre région. Dans les Alpes et particulièrement en Chartreuse, est-ce que le réchauffement climatique touche aussi notre région et le parc de Chartreuse ? Voilà.
D'accord. Est-ce que le fait que l'on soit dans un parc naturel régional, qui est quand même un classement un petit peu spécifique, c'est quelque chose c'est un sujet sur lequel vos élèves sont sensibilisés ?
Alors, une partie des élèves est sensible. Hein, on est sur un territoire qui est un territoire assez exceptionnel. Hein, et qui est aussi porteur de beaucoup de valeurs environnementaux. Hein, ces valeurs sont importantes. Donc, ils sont sensibilisés. Mais pas tous, je dirais, hein, au quotidien, les adolescents, le réchauffement climatique. Voilà, et puis, c'est aussi assez anxiogène hein, quand
oui,
on en parle
sûr.
Comme ça. Donc, on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire, dont le parc de Chartreuse. Et l'intérêt, c'était d'aller voir sur place qu'est-ce qui se passait aussi chez nous, et pas uniquement à l'autre bout de la planète. Parce qu'on parle beaucoup des feux de forêt, de l'Amazonie. Mais est-ce
de l'Australie
que chez nous,
qui a voilà, brûlé aussi, il n'y a pas si longtemps.
Voilà, Saint-Laurent-du-Pont, il fait froid, ouais. Il pleut, donc on se dit
oh,
que
pas
le réchauffement...
Que, pas que, on a
voilà.
Une journée magnifique aujourd'hui, c'est pas vrai.
Tout à fait, non, tout à fait, mais ça se réchauffe aussi chez nous.
Oui, malheureusement.
Et donc on a pu recueillir un certain nombre de témoignages, et je voudrais remercier tous les acteurs du territoire qui nous ont ouvert les portes, vraiment. Donc le parc de Chartreuse, mais aussi l'Université de Savoie, Météo France, on a été reçus. Dès que j'ai contacté ces personnes, elles ont immédiatement répondu parce que ça les intéressait de pouvoir communiquer avec les jeunes aussi sur ce phénomène-là.
Et alors du côté des élèves, comment s'est faite la mobilisation, toutes classes confondues, puisque ça ne concerne pas seulement une classe, et comment ça a évolué entre le début et la fin du projet ?
Alors, bien évidemment, ça ne concerne pas nos 300 élèves. Hein. On ne peut pas faire de projet à 300, c'est
compliqué.
Donc, c'est parti sur la base du volontariat, puisque c'est un club qui fonctionne entre midi et deux. Donc, des élèves qui sont bien évidemment déjà un petit peu sensibles à cette question. Et c'est surtout des élèves qui mettent en place des actions au collège, parce que ce qui est important, c'est de se mettre aussi en mouvement et puis d'agir. Donc, c'est des élèves, on a créé un jardin pédagogique, on a commencé à composter aussi, on a mis en place un compost collectif, parce que les déchets à la cantine sont importants. Hein. Ça, c'est des déchets, on sait que dans les établissements
c'est pas
scolaires...
Bon, c'est normal.
Voilà, non, donc, c'est pas toujours... Bon, il y a une amélioration, on a été voir la cuisine centrale, hein, justement, on a été jusque étudier bah, les menus, comment étaient faits, et puis cette question aussi de, des réseaux aussi, hein, des circuits courts, qui sont de plus en plus importants aussi. Voilà, donc ce sont des jeunes qui sont de toute façon déjà à la base un petit peu sensibles. Et l'idée du film, c'était d'ouvrir, que ça parle à tout le monde. Donc ce film, il est visible hein, sur notre site, le site internet du collège. Il est en ligne, hein, on a juste à cliquer sur le lien. Beaucoup d'élèves l'ont vu, des parents aussi, parce que ça concerne aussi nos parents. Et puis c'est un sujet qui concerne tout le monde. Voilà, et on parle des actions que l'on mène au collège, qu'on a essayé de mettre en place. Alors, ça continue. C'est plus compliqué parce que, ben, comme tout
COVID
le monde, on
oblige.
Est voilà, hein, sur des protocoles et une situation qui nous empêche de réunir, de brasser les élèves. Donc, ben, je ne peux plus mettre des élèves de la 6e à 3e dans un groupe hein, parce qu'on n'a pas le droit. Il faut que chacun soit un petit peu cloisonné. Donc, ce n'est pas simple. Mais on continue. On a eu d'autres projets l'année dernière. On continue à essayer de sensibiliser les élèves. Et sensibiliser tous les élèves, bien évidemment, en espérant que tout le monde va avoir cette sensibilité, mais ce n'est pas le cas de tous, évidemment.
D'accord.
Mais on essaye.
Alors, on parlait tout à l'heure, vous expliquiez effectivement que le film était disponible, visible sur le site internet du collège. On peut peut-être rappeler le site internet du collège du Grandson à Saint-Laurent-du-Pont.
Alors, ben, vous tapez Collège Le Grandson sur Internet,
en
une
recherche,
et vous arrivez directement sur le site du collège. Et donc, il y a différentes pages. Il y a celle sur le développement durable, puisqu'on est labellisé. On a un collège qui a obtenu le label E3D, donc établissement en démarche de développement durable. Donc, le film en fait partie hein, de cette démarche. Et toutes les actions que l'on mène au quotidien au collège et... Et on essaye de développer d'autres projets aussi, parce qu'il faut toujours renouveler avec les ados, il faut refaire d'autres projets. Et puis, c'est vrai que faire un film, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, de faire dans un établissement scolaire. Donc, sur ce thème-là, alors il est visible sur le site internet.
Vous avez un DVD, si j'ai bien compris, que vous vendez ?
Tout à fait. Alors, on a fait un DVD qui est vendu 10 euros. Alors, c'est 10 euros qui vont permettre... d'alimenter les projets, hein, parce que, ben, évidemment, ça a toujours un coût, ces projets. Donc, ça va nous permettre de développer d'autres projets au collège, comme, effectivement, là, on a un projet d'un verger avec l'association Semer et Cueillir ensemble.
Oui, bien sûr.
Donc, on est en train de réfléchir à un projet de verger conservatoire à l'intérieur du collège. Donc, ça, c'est une autre démarche qu'on est en train de mener, parce qu'il faut continuer. Le film
bien
est
sûr.
Là, mais il faut
c'est
continuer.
Pas, c'est pas une fin en soi.
Tout à fait, c'est un sujet qui est vaste et qui nécessite qu'on revienne dessus et puis donc qu'on en revienne d'une façon positive, parce que comme je vous le disais auparavant, ça peut être anxiogène ce thème, hein, le réchauffement climatique, c'est vrai que ça peut faire peur et la première partie du film est assez inquiétante hein, quand on nous parle de perte en biodiversité, de transformation du climat montagne en climat méditerranéen à terme, hein, c'est ce que le responsable de Météo France nous dit. Donc, les changements vont être opérés. Et puis, c'est cette génération de jeunes qui sont actuellement au collège qui vont effectivement être touchés par ces changements. Et donc, il faut qu'ils s'y préparent, effectivement.
Alors, effectivement, vous n'en êtes pas à vos débuts sur les actions mises en place sur la thématique, puisque vous avez eu aussi organisé un spectacle de cirque sur le climat avec Solfa Cirque, je crois.
Tout à fait. Alors, l'année dernière, dans le contexte que l'on connaît, hein, donc on a voulu aussi passer par un autre mode de communication. Donc, il y avait ce film qui était déjà fait. Et on a pu bénéficier de la résidence d'artistes de Solfa Cirque, de Biel Rossello. Donc. Et on a monté, depuis quelques années, on avait créé un spectacle qui s'appelle la Cirque Conférence sur le climat, avec des jeunes. Donc c'est une conférence sur le climat, mais une conférence gesticulée, où on parle du réchauffement, on parle des actions, mais version cirque.
Et donc c'est un peu drôle.
C'est drôle, c'est ludique parce qu'il faut aussi, c'est un thème qui est difficile, mais c'est aussi un moyen de faire passer un message tout en, voilà, en faisant. Pour les élèves, c'est les jeunes hein, qui font le cirque. Donc il y a un conférencier qui parle et qui donne des informations concrètes sur le réchauffement climatique. Et il y a différents tableaux, ce sont les élèves qui s'expriment en cirque sur ces différents tableaux, qui expriment voilà, les feux de forêt, la problématique des réfugiés climatiques,
bien sûr,
qui est aussi une problématique
importante. Dans la problématique.
Voilà. Et donc, il y a des différents tableaux comme ça qui permettent de sensibiliser les jeunes. Donc, on a pu montrer ce spectacle, malgré les conditions, à tous nos élèves de 6e et aux élèves de CM2 de l'École de la Plaine aussi. Donc, une façon de toucher peut-être les plus jeunes grâce à un moyen un petit peu ludique et puis drôle, parce qu'il y avait des passages aussi.
Grâce à un spectacle.
Voilà, un spectacle qui, je crois, a fait plaisir à beaucoup de personnes et fait plaisir aux jeunes, tout en parlant de choses sérieuses, bien évidemment. Ouais.
Super. Alors, vous êtes sous les feux de la rampe, puisque si nos auditeurs ne le savent pas, Grenoble sera capitale verte pendant toute l'année 2022. Et à ce titre, vous avez bénéficié d'une interview assez récemment, ce matin, je crois.
Oui, ce matin.
Juste avant nous, c'est du hasard complet, hein,
Tout à fait. Ce matin, oui, une équipe de journalistes est venue rencontrer les jeunes, puisqu'ils sont encore là, les jeunes qui ont réalisé...
Ils ne sont pas encore en vacances.
Il y a des jeunes qui sont au lycée maintenant, hein, oui. Donc, qui faisaient partie du groupe, puisque le film a été... on a commencé en 2019, et on a tourné pendant une année, jusqu'à 2020, et puis tout s'est un peu arrêté à cause du confinement. C'est pour ça qu'on ne l'a diffusé que l'année dernière. Et donc, oui, des journalistes de Grenoble sont venus rencontrer les jeunes ce matin, interviewer sur leur projet, leur film. Le film va être diffusé dans le cadre de cette labellisation. Je ne sais pas si c'est un label, mais en tout cas, de Grenoble, oui. ville verte et capitale verte. Et voilà, donc ils sont venus rencontrer, observer ce qui se passait au collège. Bon, actuellement, le jardin, il est un petit peu
Sous la neige,
il n'y a pas grand-chose à voir.
Est-ce qu'il en reste de neige
ouais. Oui, il fait bien froid quand même. Oui, donc, le jardin, pour l'instant, il est
gelé.
Il dort. Mais voilà, ils ont pu discuter avec les jeunes et puis avoir le ressenti des jeunes sur ce projet-là et ce qu'ils ont pu apprendre à travers le projet du film qu'ils ont réalisé et qu'ils ont construit. Voilà, donc, il va être diffusé dans le cadre de Grenoble et c'est une très bonne chose parce que voilà, je pense que c'est un document qui peut intéresser beaucoup d'établissements scolaires et j'espère qu'il va intéresser beaucoup de jeunes surtout.
Ouais, c'est valorisant pour ceux qui l'ont fait également, qui ont été acteurs de ce film, effectivement.
Tout à fait, parce que ce n'est pas un exercice très facile hein, d'aller interviewer des personnes. Hein, chacun, il s'était réparti un peu les interviews. Mais le journalisme et puis interviewer, c'est quelque chose de... Ce ne sont pas des professionnels, donc c'est un petit peu des fois angoissant. Mais c'est une bonne expérience pour eux aussi.
Surtout qu'ils avaient les deux quand même. Interviewer, c'est une chose. Être filmé, c'en est une autre.
En plus, tout à fait.
L'exercice,
et ils ont parfois un peu de mal avec...
L'exercice n'est pas toujours simple.
Avec leur image. Donc oui, se revoir sûr, un peu normal. Quelques années après, entre la 6e et la 3e, il y a une évolution en plus importante.
Bien, bah écoutez, c'est le cas de le dire. C'est vous qui terminez ce tour de piste, comme je le disais, sur le sujet, la thématique de la transition énergétique au sein du parc naturel régional de Chartreuse. Je refais de mon côté un dernier tour de piste avant de vous quitter avec Sophie et vous-même, savoir si vous avez un petit mot de la fin ou un petit message à passer à nos auditeurs sur ce sujet ô combien d'actualité et ô combien délicat.
Ben, moi, je voulais juste saluer cette initiative et redire que la transition énergétique... On dit de plus en plus aujourd'hui que ça passera pas que par les petits gestes, hein, parce que c'est pas suffisant. Mais je trouve que c'est la première porte d'entrée pour réussir à mobiliser et à se mettre en mouvement. Comme tu le disais, c'est un sujet qui est quand même assez anxiogène, le changement climatique. Et des initiatives comme celle-là, ça permet de montrer à des jeunes qu'on peut quand même faire des choses de façon collective. Pourquoi pas une première porte d'entrée vers des engagements ensuite collectifs plus importants à venir. Mais en tout cas, ça passe par là et c'est super que ça puisse démarrer dans ce cadre-là avec des projets comme ça, quoi.
Super, Monsieur Jounot.
Oui, je pense que ce projet-là, c'est pour donner envie de continuer, parce que ça ne s'arrête pas là. Il faut pérenniser les projets, il faut peut-être même voir plus grand. Hein. Dans le film, on parle de panneaux solaires au collège, par exemple. Hein. Donc ça, c'est une autre dimension. Hein. Ce n'est pas les jeunes qui peuvent mettre ça en place, mais on en parle parce que je pense qu'il faut aussi aller sur des actions de plus grande ampleur, comme tu viens de le dire. Parce que les actions, les jeunes doivent voir aussi que les adultes aussi se mobilisent. Et c'est important pour eux de sensibiliser les adultes. Et puis, ils sont dans l'attente que les adultes se mobilisent.
Montre l'exemple.
Même si, bien évidemment, il y a des dimensions économiques qu'il ne faut pas oublier. Et qui est bien d'accord qu'on ne peut pas tout faire. Mais c'est important pour eux. Et l'aspect pédagogique dans les établissements scolaires, installer des panneaux solaires dans un établissement scolaire, c'est vraiment pédagogique.
Eh bien, merci à vous deux, en tout cas, pour vos témoignages. Cette émission du Parc au naturel sur la transition énergétique est terminée. Nous nous retrouvons en début d'année prochaine, puisque nous sommes au mois de décembre, en janvier, avec une nouvelle thématique. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir parler de ce sujet ou d'un autre au micro de Radio Couleur Chartreuse. Et pour nos auditeurs, à très bientôt, bonne fête de fin d'année, n'abusez que des bonnes choses et joyeux Noël.
Oyez, oyez, auditeurs de Radio Couleur Chartreuse.
Une nouvelle émission mensuelle arrive sur nos ondes.
Découvrez l'émission de votre parc naturel régional de Chartreuse.
Mais également les richesses de votre territoire au fil des émissions qui lui sont dédiées tous les mardis à 12h et les samedis à 18h.
Et ça s'appelle le parc au naturel.
À bientôt.